quand on sait que Dieu nous aime, alors le visage aussi resplendit. Ce savoir aimer de Dieu, c'est pas aimer de n'importe qui. Aimer du Père de notre Seigneur Jésus-Christ et aimer de son amour. Que faut-il de plus pour être heureux? Eh bien, j'espère que nous allons passer encore quelques heures intensément bénies, dont les fruits se manifesteront quand vous aurez quitté ces lieux, quand vous serez retourné dans vos familles, dans vos occupations, oui, familiales, mais aussi sociales, que vous réalisiez que vous avez reçu une bénédiction qui se prolonge et une force qui vous renouvelle. Parce que ce n'est pas drôle de vivre dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde de stress où il y a toutes sortes de complications. Et pourtant, nous pourrions être aidés, à nous, d'y croire, et de demander ce secours du Seigneur. Donc, je vous ai demandé, dans cet après-midi du 21 novembre 1981, de faire la lecture de trois textes de l'Écriture, préparant notre deuxième conférence sur ce thème, la vie chrétienne, un choix quotidien. Et cet après-midi, nous allons nous arrêter plus spécialement sur ce choix qui est proposé aux croyants. Les textes que vous avez lus dans vos chambres vous ont permis donc de constater qu'à trois reprises et dans trois époques différentes, le peuple d'Israël fut placé devant un choix. Mais vous vous êtes certainement demandé à nouveau, mais qui est vraiment ce peuple d'Israël? Eh bien, ce peuple d'Israël, si vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez qu'il est formé de ses descendants de Jacob, qui était lui-même fils de qui? D'Isaac. Et vous vous souvenez qu'Isaac était le fils d'Abraham. Cet homme qui fut appelé par Dieu à sortir de la ville dure de Chaldée pour s'en aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Dieu appelait cet homme qui était un païen, Abraham était un païen, vivait au milieu des païens, et Dieu l'appelle à sortir de son pays, de son peuple, de sa parenté pour s'en aller au pays que Dieu lui montrerait. Mais Dieu ne le lui indique pas seulement, il lui donne une direction. Et il est dit, Abraham partit ne sachant où il allait. C'est cela la foi. Mais je vous dis de suite que la foi n'est pas une aventure. La foi est une obéissance. Abraham n'est pas parti à l'aventure, il ne savait pas où Dieu le conduirait, mais il savait que Dieu l'avait appelé à quitter son pays et son lieu et sa famille pour marcher dans une certaine direction. Et il était assuré, puisque Dieu l'avait appelé, que Dieu lui montrerait la suite. La foi n'est pas une aventure, c'est une obéissance à un ordre que l'on a reçu de Dieu et on a la conviction que Dieu sera dans ce chemin. Et l'on marche, non pas par la vue, mais dans la certitude que nous n'allons pas être abandonnés. La foi, je le répète, n'est pas une aventure. La foi est une obéissance à une parole que l'on a reçue de Dieu. Et en effet, quand vous lisez les chapitres 12, 13 et 14 et 15 du livre de la Genèse, vous voyez que Dieu était à toutes les étapes où Abraham devait s'arrêter. et que là, il se révélait davantage à lui, jour après jour. Et c'est ainsi qu'une fois que Abraham a manifesté cette obéissance, a quitté son pays, Dieu lui a révélé qu'il allait lui donner un fils, qu'il allait lui donner une terre et une postérité qui serait en bénédiction à toutes les familles de la terre, de sorte que ce peuple d'Israël qui est descendant d'Abraham doit en définitive être en bénédiction à toutes les nations de la terre, donc aux Arabes également, dans les desseins et les voies de Dieu. Nous ne voyons pas cela aujourd'hui encore, mais ce que nous savons, c'est qu'en tout cas, c'est un descendant d'Abraham qui nous a apporté à nous le salut. C'est qui ? Jésus-Christ, qui en tant qu'homme est de la semence d'Abraham, descendant d'Abraham par Marie, sa mère. Nous croyons que Jésus est conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie, mais nous savons que Marie était avec Joseph, descendante de David, et que David lui-même était de la race d'Abraham. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux Samaritains que le salut venait des Juifs. Donc, ce peuple d'Israël, dans le dessein éternel de Dieu, doit être, tôt ou tard, en bénédiction à toutes les nations de la terre. Et avant même que s'accomplisse pour Abraham la promesse que Dieu lui avait faite, concernant la naissance d'Isaac, Dieu avait révélé à Abraham que ses descendants devraient séjourner en Égypte durant 400 ans. Vous avez cela dans le chapitre 15 de la Genèse. Dieu dit à Abraham, tu peux te promener dans ce pays de Canaan, mais je ne te permets pas de t'y établir. Ce pays ne t'appartient pas. Ce pays appartient aux Amoréens. Et je donne encore aux Amoréens 400 ans, pourquoi ? Pour se repentir de leur péché et de leur iniquité. Mais quand l'iniquité des Amoréens, dit l'Éternel à Abraham, sera à son comble, alors le jugement viendra sur eux, ils seront dépossédés de ce pays, et c'est ta descendance qui héritera ce pays. Dieu est Dieu. Et il est souverain, mais croyez-le bien, il est juste dans toutes ses voies. Et peut-être qu'en lisant certains de ses récits, vous avez trouvé que les ordres de Dieu ou de les actions de ses messagers pouvaient avoir une certaine cruauté, comme vous êtes des sensibles. Vous qui chantez la Marseillaise. Quelquefois. Enfin, non, je ne suis pas en train. Vous ne chantez pas la Marseillaise. Que le sang est pur. Abreuve nous six lions. Hein, voilà. Là, on est d'accord. Hein, on est pris par ce chant de Rouget de Lille et vous les entendez chanter ça en France. Hein. Mais quand on voit qu'il y a un peu de sang versé dans la Bible, alors, oh, quelle horreur. Ce Dieu-là, mais le Dieu des Français, le Dieu des Allemands, le Dieu de toutes ces nations-là, le Dieu des Québécois aussi. Eh bien oui, je voudrais que nous laissions de côté cette sensiblerie et que nous prenions Dieu au sérieux. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu aussi qui fait mourir. Et on ne se moque pas de Dieu. Et cela, je voudrais bien que vous le reteniez. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous donne à tous, Dieu donne à tous les hommes la possibilité de se repentir. Ce que je sais de mon Dieu et du Dieu de la Bible, c'est que c'est un Dieu qui ne veut jamais la mort du méchant, mais qui voudrait sa conversion et sa vie. Et vous qui dites si souvent, mais enfin, si Dieu était juste, eh bien, il écraserait telle ou telle personne. Vous avez déjà pensé hein, à ça. Hein? Donc, si Dieu est juste, pourquoi est-ce qu'il laisse celui-là vivre hein? Ah oui, eh bien, vous réclamez vous-même la mort sur vous. Parce que peut-être qu'un jour, vous pourriez faire un écart. Et si la foudre vous tombait immédiatement dessus, que penseriez-vous de Dieu qui n'a pas de patience? Eh bien, croyez-le. Quand ça nous touche, nous, hein, c'est comme ça que nous sommes. Dieu a de la patience. Et vous voyez qu'il dit déjà à Abraham, tu ne pourras pas t'établir dans ce pays, tu peux t'y promener de long en large, mais tu y resteras en étranger. Et après 400 ans, que je donne encore aux Amoréens, eh bien, tes descendants qui auront dû séjourner en Égypte sortiront d'Égypte à main forte et à bras étendus, parce que c'est moi qui les ferai sortir de cette fournaise ardente où ils se seront trouvés, et je leur donnerai ce pays pour être leur possession. Alors vraiment, vous savez, quand vous lisez la Bible comme ça, c'est passionnant et vous êtes presque toujours assuré d'avoir les dernières nouvelles. Parce que les dernières nouvelles, vous savez, c'est pas à la radio ou à la télévision qu'on les a. C'est dans l'Écriture sainte. C'est un livre qui est toujours actuel. Le ciel et la terre passeront, disait Jésus, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole ne passera pas. Et nous y trouvons une actualité extraordinaire. Et cette parole est vraiment normative pour tous les temps. Mais hélas, les gens ne la lisent pas. Ils lisent les mensonges des journaux et des politiciens. Alors qu'il y a là une parole vivante, la parole de Dieu, une parole qui restaure nos âmes. Et quand on commence à la lire, eh bien, on entend une voix intérieure qui me dit, c'est la vérité. Et au lieu de voir les histoires d'un autre peuple et d'un autre âge, comme le disait déjà Goethe, on y découvre notre propre histoire. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Dieu a quelque chose à nous dire partout, toute cette histoire. Et il est dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été pour nous servir d'exemple, pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous qui sommes si proches de ces temps 2000, nous pouvons recevoir une instruction de la parole de Dieu. Oui, les descendants d'Abraham séjourneraient 400 ans en Égypte. Dieu révèle cela à Abraham au chapitre 15 de la Genèse. Et cela s'accomplit au temps de Jacob, donc le petit-fils d'Abraham, qui a 12 fils. Et vous connaissez comment Jacob sera conduit à descendre en Égypte. Il a un fils chéri, un fils qu'il aime, qui a 17 ans. Au moment où Jacob dit à son fils Joseph, je voudrais que tu ailles voir où sont tes frères qui paissent les troupeaux. Je voudrais que tu t'enquières d'eux pour savoir comment va leur santé et que tu me rapportes de leurs nouvelles. À ce moment-là, Jacob a 12 enfants, une fille et 11 enfants, et sa femme bien-aimée, Rachel, attend le dernier, Benjamin, et hélas, quand elle accouchera, elle perdra la vie, et l'on voit le sépulcre de Rachel près de Bethléem, sur la route là de Bethléem, il y a encore le sépulcre de Rachel et des femmes qui pleurent encore. Je ne sais pas si elles prennent des oignons pour avoir des larmes, mais aujourd'hui encore, vous voyez les pleureuses au sépulcre de Rachel sur la route de Bethléem. Je logeais justement à proximité de ce sépulcre sur la route même de Bethléem. Mais il y avait aussi les soldats israéliens avec leurs fusils. Et puis quand on entrait là, on nous fouillait pour voir si on n'avait pas une bombe. Vous savez, on ne va pas faire sauter le sépulcre de Rachel. Hein, mais il y a des Arabes qui sont là autour, alors il faut aussi veiller à leur sécurité, comme aussi à la sécurité des Juifs. Donc, Joseph est le fils de cette Rachel qui, au moment où Jacob appelle son fils, donc Rachel est morte, et puis toute l'affection de Jacob qu'il avait pour sa femme s'est reportée spécialement sur ce Joseph, qui était un garçon qui avait la crainte de Dieu et qui dépassait ses frères en loyauté. Et même, il était très affligé d'entendre les propos de ses frères. Ils avaient eu la même éducation. Jacob avait enseigné ses enfants, mais sur les 11 qui étaient là, eh bien, c'était Joseph, je ne parle pas de Benjamin, qui était le plus jeune, Joseph était celui qui faisait le plus de plaisir à son père. Et alors, ce fils lui faisant tellement plaisir, il lui avait fait une robe bigarrée, un habit très beau, et ça avait apporté de la jalousie chez ses frères. De sorte que Joseph, obéissant à son père, était donc allé prendre de leurs nouvelles, et il est dit que quand ses frères le virent, ils se dirent l'un à l'autre, ben voilà le fils bien-aimé de notre père, celui qui nous a raconté les songes qu'il a eus, parce que Joseph avait eu certains songes, et il avait peut-être manqué de prudence, il avait raconté ses songes à ses frères, et leur interprétation, au fond, était à leur désavantage, de sorte qu'ils étaient jaloux contre leur frère. Alors, ils décident de le tuer. Et vous connaissez cette histoire, je ne m'en vais pas allonger. Au dernier moment, un des frères a quand même pitié de Joseph. On le descend dans une citerne. Et après que Joseph est dans la citerne, il est dit qu'il s'attire pour manger et pour boire. C'est bien ça. Le frère est dans la citerne, et puis maintenant, pique-nique. Hein? Et ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas voulu écouter la détresse de Joseph, qui les a suppliés de l'épargner. Non, dans la citerne. On verra ce que tes songes deviendront. Et puis, on a l'intention toujours quand même de le tuer, mais un frère veut le sauver, il y a division. Mais tout à coup, il y a une bande d'Ismaélites qui arrivent avec leurs chameaux et qui sont allés en Égypte pour y apporter leurs marchandises. Alors, on se dit, autant le vendre. Les affaires sont les affaires, on n'est pas juifs pour rien. Peut-être pas encore, mais enfin, ils le vendent aux Ismaélites, et ensuite, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph est acheté au marché par un des gouverneurs de l'Égypte, un des officiers du pharaon, qui s'appelle Potiphar. Et voilà que ce Joseph est un beau garçon, il a une belle figure, un beau visage, il est bien fait, une belle stature, et il est très intelligent, de sorte que son maître, Potiphar, lui remet le soin de diriger toute sa maison. Et il ne prend connaissance de rien, parce qu'il a une confiance éperdue, une confiance totale en ce Joseph, cet esclave hébreu. Et alors, comme le maître, étant un officier du pharaon, est souvent absent, eh bien, la femme de Potiphar jette les yeux sur ce Joseph. Vous voyez que c'est une vieille histoire. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et pendant que le mari est loin, eh bien, elle fait des propositions à ce Joseph. Qui aurait pu dire, au fond, pourquoi moi, je ne profiterais pas aussi? Parce que Joseph n'était pas de bois, il n'était pas de marbre non plus, il n'était certainement pas insensible à la beauté de l'Égyptienne, mais quand même, il est retenu. Pourquoi? Pour quelle raison? Il dit à cette femme quand même, ton mari m'a remis les soins, le soin de diriger la maison, il ne s'inquiète de rien. Il n'y a qu'une chose que je ne dois pas toucher, c'est toi. Et tu me fais une proposition pareille. Alors évidemment, la femme continue, insiste, et un certain jour, parce qu'il y a toujours un jour, hein, on dit, mais je ne l'ai pas cherché, c'est arrivé tout seul. On est presque en train de dire, mais c'est Dieu qui l'a permis. Je ne voulais pas tomber, mais enfin voilà, c'est arrivé. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché? Et voilà, c'était un jour comme ça, et Joseph est seul dans la maison, la femme de Potiphar l'attrape comme ça, et lui dit « couche avec moi, hein, elle ne va pas par quatre chemins hein. ». Voilà. C'est très vieux cette histoire, c'est très moderne aussi. Hein? Alors, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Il pouvait se dire « mais Dieu m'a abandonné, hein. J'ai voulu obéir à mon père, j'ai voulu servir mes frères ». Et maintenant j'ai été vendu, on me laisse comme ça tomber, eh bien pourquoi est-ce que moi, qui suis aussi un homme, ne pourrais-je pas me satisfaire? Alors non, il s'écrie, mais comment pécherais-je? Et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Pourtant la loi de Moïse, tu ne commettras pas adultère, n'avait pas encore été promulguée, mais lui, il sent bien dans sa conscience que prendre la femme de son maître, c'est péché non pas seulement contre Potiphar, mais c'est péché contre Dieu. Puis nous trouvons toutes les excuses possibles. Pourvu qu'on t'aime, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, vous connaissez la chanson. On t'aime, puisque l'amour, tout est permis, et on fait n'importe quoi. Eh bien, voilà, un homme. Et ça, c'est dans le livre, la livre de la Genèse. Je vous dis que cette Bible, hein, qui vous scandalise, soi-disant, c'est un livre très saint, S-A-I-N-T, puis aussi S-A-I-N. C'est un livre qui nous sanctifie, parce que le cinéma, que vous aimez, hein, les vues, c'est le péché sous les fleurs. Ça vous donne le goût de péché. Tandis que la Bible, ça vous met l'horreur du péché, parce qu'il est dévoilé dans toute sa laideur. Il vous montre que vous êtes, au fond, captifs de vos convoitises, de vos sens, vous n'êtes pas capable de résister. Alors qu'auriez-vous fait, vous, quand on vous attrape par vos vêtements? Eh bien, Joseph semblait qu'il ne peut pas résister, alors il laisse son vêtement puis il part. Ça ne veut pas dire qu'il était nu, je pense bien qu'il avait un caleçon. Bon, mais enfin, il y avait déjà des sous-vêtements là aussi. Mais il a laissé sa tunique. Enfin, s'il s'est sauvé en petite tenue, eh bien, que voulez-vous, la femme maintenant pleine de rage, parce que ça, hein, oh, je t'aime, et puis quand ça marche pas, c'est la rage, c'est la colère. Hein. Elle met bien en vue ce vêtement de Joseph et elle attend son mari. Tu lui dis, cet esclave hébreu que tu nous as envoyé, voilà ce qu'il a voulu faire, il a voulu me violer, et j'ai crié, j'étais seul dans la maison, je me suis débattu, et j'ai réussi à agrafer son vêtement, et voilà. Et Potiphar croit sa femme. C'est embête les hommes. Il croit sa femme, et sans enquête, on condamne Joseph, il est mis en prison. Et pendant 2 ans, Joseph sera injustement en prison. Ah, mon Dieu, mais enfin, son Dieu, mais si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet des injustices pareilles? Dieu était en train de former Joseph, car il avait, pour lui, il avait un plan fantastique. Il allait en faire l'homme qui allait dominer l'Égypte. Mais pour pouvoir commander l'Égypte, pour pouvoir dominer sur l'Égypte, il faut d'abord être formé à l'école de la souffrance. Il faut être maître de ses sens. Et peut-être qu'il faut d'abord aller en prison pour apprendre certaines choses. Et même en prison, Joseph, qui est toujours le même, gagne sans le vouloir le cœur du chef de la prison qui lui dit « Je te remets les prisonniers ». Et voilà maintenant Joseph qui, au lieu d'être serviteur dans la maison de Potiphar, est serviteur dans la prison, et il réussit encore à aider des prisonniers. C'est l'histoire de des chansons et du panetier. Puis, vous connaissez la suite. Le pharaon fait un songe, il n'arrive pas à trouver la paix, il est très troublé au sujet de ce songe qui annonçait une famine sur l'Égypte après 7 années de prospérité. Il y aurait une immense famine sur l'Égypte. C'est les vaches grasses et qui sont mangées finalement par les vaches maigres, les épis bien gonflés qui sont mangés par les épis desséchés, et comme les devins d'Égypte n'arrivent pas à donner une signification à ces songes qui ont troublé le pharaon, tout à coup les chansons qui étaient prisonniers au temps où Joseph était là dans la prison se souvient que Joseph lui avait expliqué un songe. Alors il va trouver le pharaon puis il lui dit j'avais péché contre toi et tu m'avais mis en prison et là j'ai rencontré un homme qui avait vraiment la sagesse de Dieu. Et le pharaon fait appeler Joseph. Joseph, que fait-il pour se présenter devant le pharaon? Il se rase d'abord. C'est beau ça, hein? C'est un homme propre. Et malgré qu'il n'a plus de mère, et il ne va pas tout barbu et tel qu'il est vers le pharaon. Il se rase. Il est propre. Vous savez, quand on lit la Bible, on devient propre, on se lave. Et puis, il raconte au pharaon, il révèle au pharaon la signification de ses songes. Le pharaon dit, mais nous ne pouvons pas trouver en Égypte un homme semblable à lui, et il lui remet l'administration de l'Égypte. Maintenant, fais ce que tu veux, je te confie l'Égypte, l'économie de l'Égypte. Et vous connaissez les décisions que prend Joseph, qui fait construire des silos pour les récoltes de blé, on fait de grandes réserves de blé, et c'est ainsi que l'Égypte deviendra le grenier de tout ce Moyen-Orient dans un temps de famine intense. Une famine qui atteint le pays d'Israël, de telle sorte que Jacob, qui croit depuis longtemps son fils mort, puisque ses fils sont venus lui apporter cette belle robe qu'ils ont trempée dans le sang d'un bouc, en lui disant une bête mauvaise l'a tué, eh bien voilà, pendant 20 ans, ses frères ont menti, mais maintenant ses frères doivent descendre en Égypte sur la demande de Jacob, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et c'est ainsi qu'ils s'en vont pour acheter du blé en Égypte. Tout se réalise comme Dieu l'avait dit à Abraham. Et finalement, Jacob lui-même descend en Égypte et Joseph est reconnu finalement par ses frères, ou se fait reconnaître à ses frères, et c'est la réconciliation, et Joseph leur dit, eh bien, ne vous inquiétez pas, au fond, tout ce que vous m'avez fait, c'est Dieu qui l'a permis, il avait la haute main sur tout, c'était pour vous conserver envie que, au fond, vous m'avez vendu, et Dieu a fait tourner le mal que vous vouliez me faire, et il l'a fait tourner en bien, non seulement pour lui, mais pour eux-mêmes. Voilà la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que Israël et ses 12 enfants sont descendus en Égypte. Mais le pharaon qui avait connu Joseph, que lui est-il arrivé un jour? Il est mort. Et après, un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph, et Joseph était mort lui aussi, est monté sur le trône de l'Égypte, et en voyant ces Hébreux qui avaient proliféré, et qui s'étaient multipliés, il a pensé, bien voilà, une main d'œuvre que je puis employer gratuitement. Et on pense que c'est eux qui ont construit les pyramides et bien d'autres choses. En Égypte, on a employé cette main d'œuvre. Et alors le pharaon a fait peser sur les descendants de Jacob, sur les fils des 12 tribus d'Israël, il a fait peser un joug écrasant, de telle sorte que les Hébreux, esclaves en Égypte, se sont mis à supplier l'Éternel d'intervenir. Et il faudrait arriver à l'histoire de Moïse, parce que tout s'enchaîne. Voilà que le pharaon, voyant que les Hébreux se multiplient, passe un décret que tous les enfants mâles doivent être exterminés. Tous les enfants mâles chez les Hébreux doivent être exterminés. Mais voilà qu'un échappe, qui s'appelle Moïse. Hein? Moïse. parce que le temps est venu. Et Moïse échappe au Pharaon, et même par la providence divine, il devient le fils de la fille du Pharaon, adopté par la fille du Pharaon qui a trouvé ce petit coffret dans les eaux du Nil, un bébé qui pleurait. Eh bien, on peut être fille de Pharaon quand on voit un bébé qui pleure et que cet enfant était divinement beau, comme je vous disais que j'étais divinement beau tout à l'heure. Je pensais à Moïse, dont il était dit qu'il était divinement beau, ce bébé, c'est-à-dire beau pour Dieu. Et c'est la mère même de Moïse qui a été prise par la fille du Pharaon comme nourrice de son enfant. C'est quand même merveilleux. De sorte que la mère de Moïse, sans que la fille du Pharaon le sache, nourrissait donc son propre enfant, mais aux frais et de la cour du Pharaon. Puis Moïse étant devenu un homme, n'a pas oublié son origine, qu'il était hébreu. Et il a vu ce que souffrait son peuple. Et tout à coup, il a eu comme le pressentiment, c'est moi que Dieu va susciter pour sauver mon peuple de ce pays d'Égypte. Mais il s'y est pris trop tôt. Il avait 40 ans, sorti frais et moulu des écoles égyptiennes, il était sûr de lui, en pleine maturité, et il va visiter ses frères. Lui, le fils de la fille du Pharaon. Et puis, il voit un Égyptien qui est en train de battre un Hébreu. Alors, il est assez vif, il tue l'Égyptien et il délivre l'Hébreu. Et puis, ensuite, le jour suivant, il retourne voir ses frères, mais il trouve deux Hébreux qui sont en train de se battre. Alors, il leur dit, mais comment, vous êtes frères et vous vous battez? Puis il y en a un qui lui dit, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors le pauvre Moïse, tout à coup, réalise que la chose est connue et il a peur. Et il s'enfuit au pays de Madian pour échapper à la colère du Pharaon et aux suites d'une enquête judiciaire. Et il sera pendant 40 ans le berger de son beau-père, Jobab, qui Jéthro, et qui habite Madian. Et c'est au bout de 40 ans, quand il a 80 ans, qu'alors qu'il va dans le désert du Sinaï conduire les troupeaux de son beau-père, qu'un matin, comme cela, comme tous les matins, tout à coup, bien voilà, il voit un buisson qui était tout en feu, et le buisson qui ne se consumait pas. Et il entend une voix qui lui dit, Moïse, Moïse. Et il se tourne, puis la voix lui dit, attention, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et c'est la voix de Dieu qui lui parle. Ce Dieu qui avait parlé à Abraham. Il lui dit, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu. Ce que Israël souffre en Égypte, je suis descendu. Les 400 ans sont passés maintenant. Et Dieu va intervenir. Mais Moïse a 80 ans, il ne se sent plus en forme. Et puis Dieu lui dit justement, c'est maintenant que je m'en vais t'employer. Maintenant que tu ne te sens pas en forme, parce que toute la gloire sera pour moi. C'est Dieu qui conduira Moïse. Et vous connaissez toute cette histoire maintenant d'Israël. Moïse est envoyé vers le Pharaon, en disant au Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple au désert pour qu'il me serve. Et le Pharaon répond à Moïse, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Eh bien, il va l'apprendre, qui est l'Éternel. Et il va l'apprendre d'une façon terrible. Quand on ne veut pas écouter la voix du Seigneur, le Seigneur parle plus fort. Il va l'apprendre par ces 10 plaies successives que vous connaissez, qui sont décrites dans le livre de l'Exode. Et finalement, vous voyez que c'est le Pharaon qui demande à Moïse de prendre la direction du peuple et de s'en aller. Mais quand tout à coup le peuple est parti, le Pharaon se repent. Parce que maintenant, il se dit, je vais perdre enfin toute cette main-d'œuvre. Et il mobilise toute son armée pour encercler clés, les fuyards, donc ce peuple d'Israël qui, sous la conduite de Moïse, s'en va vers le désert. Mais avant d'arriver au désert, ils arrivent vers la mer Rouge. Et vous vous rendez compte, tout à coup, Israël conduit, enfin tout ce peuple, les 12 tribus conduites par Moïse, se trouve face à la mer et voit se déployer en tenaille derrière eux les armées du Pharaon avec leurs chars et leurs chevaux. C'est la détresse totale. Devant eux, la mort. Derrière eux, l'épée du Pharaon, le retour à la captivité ou la mort. Et alors, on commence à crier contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait tu? Nous as-tu fait sortir du pays d'Égypte? Pourquoi nous conduis-tu vers la mort? Et Moïse crie à Dieu. Dieu lui enseigne. Et tout à coup, que voit-on? La mer qui s'ouvre. Vous me direz, mais moi, je ne crois pas à ça. Mais moi, j'y crois. Oui. Je crois à ce Dieu qui a toute puissance sur les eaux et qui peut faire que les eaux soient dressées comme un mur d'un côté et comme un mur de l'autre côté. Mais pour entrer là-dedans, il faut de la foi. Hein, parce que vous allez vous dire, ça va nous retomber dessus, c'est tout. Un chemin qui est frayé dans la mer. Mais quand il n'y a pas d'issue possible, on y entre. Eh bien, Israël y est entré et dans leur folie, les Égyptiens ont cru qu'ils pouvaient les poursuivre par ce même chemin. Mais ce chemin à travers la mer Rouge, qui était le moyen de délivrance pour les uns, pour le peuple de Dieu, allait être le moyen de la destruction, le moyen du jugement pour le Pharaon qui avait endurci son cœur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et il est dit que la sixième et la septième fois, c'est Dieu lui-même qui endurcit son cœur. Parce que maintenant, la patience de Dieu est à bout et le Pharaon doit subir son jugement. Et c'est lui-même qui se place dans une situation où le jugement tombe sur lui et les Égyptiens, donc, sont détruits, enfin, cette armée-là, dans les eaux de la mer Rouge. Et de l'autre côté, vous voyez Israël avec Moïse. Son frère Aaron et Marie qui chantent un cantique à l'Éternel pour célébrer cette merveilleuse délivrance. Mais ils sont maintenant dans le désert, le pays de Canaan, ils n'y sont pas encore, et Dieu commence par leur donner sa loi au Sinaï. Il leur dit qu'il est le Dieu de ce peuple, qu'il va les conduire jusqu'à dans ce pays découlant de lait et de miel, et qu'il prendra soin d'eux. Il leur donne la manne pour nourriture, ce pain qui descendait du ciel, enfin qui descendait avec la rosée, de sorte que chaque matin, là où il n'y avait pas de magasin, où il n'y avait rien pour manger, ils étaient nourris par la manne. Il fait couler l'eau du rocher. J'ai traversé ce Sinaï, je suis allé dans tous ces lieux, et vous savez, quand on voit ces lieux, on se dit, et dire que Moïse a été là, qu'il a conduit ce peuple, et ce peuple qui murmurait sans cesse contre Moïse. Quel homme que c'est ce Moïse! Et vous la connaissez, cette loi de Dieu? C'est pas des contes que je vous raconte. Hein. Les 10 paroles qui furent prononcées sur le mont Horeb, sur la montagne d'Horeb, sur le Sinaï, ces 10 paroles, vous les connaissez. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, vous avez appris ça au catéchisme, un seul Dieu, tu adoreras. Et je ne vais pas vous répéter les 10 commandements, mais c'est ces paroles-là qui sont à la base encore aujourd'hui de tous les codes civils de la plupart des nations du monde, malgré tout ce que l'on peut dire. Mais en plus de cette loi, Dieu a donné plusieurs commandements à ce peuple. Les Juifs en comptent 613. Il y a pour eux 613 commandements à observer. Mais ces 613 commandements, Dieu les avait résumés en 10 commandements, et je dirais même en 2 grandes paroles, qui résumaient la première parole, la première table de la loi, la seconde, la deuxième table. La première table est résumée par ce grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si vous pratiquez ce commandement, les 5 de la première table sont mis en pratique. Donc, qu'est-ce que Dieu demandait à son peuple? D'aimer Dieu, de l'aimer. Quant à la seconde table, eh bien, nous trouvons dans le Lévitique un autre commandement qui résume tous les devoirs que l'homme peut avoir vis-à-vis de son prochain, et c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et remarquez que quand Jésus était sur la terre, il n'enseignait rien d'autre que ce que Moïse enseignait. Quand on lui demandait à Jésus quels sont les grands commandements de la loi, il résumait la loi dans ces 2 commandements, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quand un juif un peu intelligent devait résumer la loi, il faisait de même. Mais pourtant, le peuple d'Israël, le peuple juif au temps de Jésus, remarquait une différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des scribes. C'est que Jésus, lui, vivait ses commandements. Il aimait. Quand il disait le grand commandement, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée », on voyait, c'était vrai, il vivait ça, il réalisait cela. Et quand il disait « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on voyait en Jésus cet amour manifesté pour le prochain, pour le pauvre qu'il rencontrait, pour le malade qu'il guérissait. Tout était incarné en Jésus. Tandis que le docteur de la loi, qui avait la même doctrine, il disait « le grand commandement, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », avec une figure comme ça longue, hein, c'est pas très encourageant. Et puis, enfin, il faisait appel à vos bons sentiments, il faisait appel à la chair. Tandis que Jésus, en relation avec Dieu, l'amour du Père était dans son cœur. Et alors, quand on a cet amour du Père, eh bien, ce n'est pas un effort d'aimer. Et quand on aime, tout devient plus facile. Alors, les portions que vous avez lues maintenant, c'est donc cette portion de Moïse et qui, à la fin de ce grand pèlerinage dans le désert, vous savez que ils auraient pu arriver en 11 journées au pays de Canaan, depuis la sortie de la mer Rouge jusqu'au pays de Canaan, et vous pouvez y aller, et vous verrez que c'est vrai. Et il n'y avait que 11 journées de marche, vous avez cela dans le chapitre 1er du Deutéronome, et vous pouvez faire le trajet. Et combien de temps est-ce qu'ils ont mis? 40 ans, parce qu'ils ont tourné en rond. Parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait réellement les délivrer et les installer dans ce pays. Et à cause de leur incrédulité, ils ont vécu 40 ans dans ce désert jusqu'à ce que toute cette génération incrédule soit morte. Cette génération qui disait à Moïse, tu nous as fait amener dans le désert pour faire périr nos enfants. Et Dieu dit à Moïse, eh bien justement, leurs enfants, eux y entreront. Mais ces pères qui n'ont pas voulu me croire, eux mourront au désert. Et même Moïse n'a pas pu entrer parce que un jour, il s'est un peu énervé, et on peut le comprendre, devant ce peuple au pouls raide et qui murmurait sans cesse contre Dieu. Dieu lui avait dit, parle au rocher et l'eau sortira. Et au lieu de parler au rocher, eh bien, Moïse a frappé 2 fois le rocher. L'eau est sortie, mais Dieu lui dit, je t'avais pas dit de frapper le rocher, je t'avais dit de parler au rocher. Et vous savez, moi, ça me bouleverse, là. Dieu veut qu'on suive sa parole. Dieu n'a que faire de nos initiatives. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il vous faut prendre des initiatives. La vraie initiative, pour moi, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Et là, vous êtes sûr que vous marchez dans un chemin où Dieu peut vous bénir. Alors, résumons maintenant ce que vous avez lu. Donc, c'est un peuple délivré du pays d'Égypte. C'est un peuple qui a la connaissance de Dieu. C'est un peuple qui a fait des expériences concernant la puissance de Dieu qu'il a préservé au travers de ce grand et de cet horrible désert. Et Moïse leur dit, mais enfin, qu'est-ce que Dieu vous commande? Moi, je m'en vais mourir. mais vous, vous allez subsister, vous, vous allez entrer. Mais qu'est-ce que Dieu vous demande? Et vous avez lu au chapitre 30, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. » Vous avez lu ça, hein? Hors de ta portée, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel, qui montera au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. J'aimerais que vous souligniez ça dans votre Bible. C'est une chose que je vous demande. C'est pas quelque chose d'incroyable. C'est pas quelque chose de difficile. Tout ce que je vous demande, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vois aujourd'hui, devant toi je mets la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Tout est là. Tout ce que Dieu leur demandait, c'était leur amour, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, parce que la création n'a pas renié le Créateur. Hein. Toute la création témoigne de la puissance éternelle de Dieu, de sa divinité. Dieu prend à témoin ses œuvres et dit à ses hommes, je prends à témoin mes œuvres que je vous ai montré le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Eh bien, choisissez la vie afin que tu vives pour aimer l'Éternel ton Dieu. Voilà tout ce que Dieu demandait. Tout ce que Dieu demandait. Et croyez-le, mes amis, moi ce qui m'a convaincu de péché, c'est le jour où je me suis rendu compte que je n'aimais pas l'Éternel. Je n'aimais pas Dieu, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Le commandement de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et au fond, je n'aime pas Dieu de cette façon-là. Moi, je ne sais pas si vous l'aimez de cette façon-là. Mais je me suis rendu compte, j'avais 14 ans, que je n'aimais pas Dieu de cette façon-là, je n'aimais pas Dieu. Et je me suis dit, mais alors, mais qui es-tu pour ne pas aimer l'être le plus aimable, surtout que ce Dieu s'était révélé, n'était pas simplement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, à un tel point que Jésus pouvait dire à la fin de son ministère, quand on lui disait, mais montre-nous le Père Céleste, montre-nous celui que tu appelles toujours ton Père et cela nous suffit. Et Jésus disait, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand je me suis mis à contempler dans les évangiles la personne de Jésus, j'ai découvert qu'en effet, toutes les gloires du Père, toute la gloire du Dieu invisible resplendissait sur la face du Christ. Et je me suis rendu compte, mais comment ne pas l'aimer? Comment ne pas aimer ce Jésus? Je vous dirais, mais qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande, Jésus? Il demande quoi? Votre cœur. Mais vous dites, mais, moi je veux pas lui donner mon cœur. Oh, je veux bien lui donner mes dernières pensées au moment de la mort, quand je recevrai l'extrême onction. Alors là, je veux bien de lui, je veux bien qu'il soit mon sauveur, qu'il me rachète. Mais en attendant, je veux vivre ma vie. Et aujourd'hui, tous les commandements du Seigneur sont transgressés. Vous les connaissez, ces commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ou un seul Dieu tu adoreras. Et même dans notre langage, au Québec comme ailleurs, on ne sait que dire j'adore, j'adore, ou j'adore ceci, j'adore cela, j'adore cela. C'est quelque chose d'effroyable. Nous sommes devenus des païens. Notre christianisme, ben, ce n'est que du vernis qui recouvre du paganisme. Nous adorons n'importe quoi. J'adore une vedette, j'adore le cinéma, j'adore n'importe quelle nourriture. On l'adore. Oh, j'adore. C'est bon, hein, j'adore. J'adore prosterner devant le fromage. On adore le fromage. On adore, voilà. Et alors, notez bien que les idoles, justement, ce que Dieu ne voulait pas, c'est qu'on se prosterne devant des idoles que l'on en a fait. Alors, vous voyez, chaque nation voulait avoir un dieu à sa ressemblance. Alors, il y en a qui ont pris un bœuf qu'ils adoraient, hein, les Égyptiens. Il y en a d'autres qui ont pris un serpent comme image de la divinité. On adore n'importe quoi. Et quant à ces idoles, quant à ces statues, ces grandes statues que l'on faisait, et auxquelles des hommes se consacraient, c'était ça, ces prêtres de Baal, hein. Et il y avait toute une religion tout à fait païenne, et c'était contre cette religion païenne que Moïse mettait en garde le peuple. Et hélas, ce peuple qui avait la connaissance du vrai Dieu, eh bien, il a vu ce que faisaient les nations tout autour de lui, et ils ont continuellement imité. Au lieu d'être le peuple qui devait être un exemple et un modèle, le peuple d'Israël a voulu ressembler aux nations païennes, malgré qu'ils avaient la connaissance de la loi. Alors, je passe de cette exhortation de Moïse à celle que vous avez lue dans Josué. Josué, connaissant bien le cœur de son peuple, voit qu'il est maintenant âgé, qu'il va suivre, comme il le dit dans le chapitre précédent de celui que vous avez lu, il va suivre lui aussi le chemin de toute la terre, et il aime tellement son peuple d'Israël qu'il leur dit, bien, je voudrais vous donner une dernière exhortation. Et il rassemble tout ce peuple à Sichem. J'ai passé par Sichem encore l'autre jour, et je pensais à cela. Et je me disais, voilà, tout ce peuple, il y avait le mont Garizim d'un côté, le mont Ebal de l'autre, et puis tout ce peuple était rassemblé à Sichem, et le vieux Josué, successeur de Moïse, leur dit, bien voilà, vous vous souvenez qu'Abraham a été sorti du paganisme. Dieu l'a fait monter dans ce pays de Canaan. Il l'a délivré de toutes ses idoles. Alors, ne retournez pas à ces idoles. Enfin, si vous voulez y retourner, eh bien, faites-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et de nouveau, en résumé, qu'est-ce que Josué demande? Vous avez remarqué? C'est d'aimer l'Éternel. Tout ce qui vous est demandé, c'est d'aimer l'Éternel. C'est de le servir, de ne pas vous détourner de lui, de l'invoquer dans toutes vos détresses. Car vous connaissez certainement le psaume 115 qui nous décrit ce que sont les idoles, ce que sont les statues. Il est dit, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des mains. Elles ne touchent point, elles ont des pieds, s'il faut les porter. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui est porté par des bras d'homme. Puis c'est notre création, c'est nous qui avons créé ce Dieu-là. Alors que le vrai Dieu est un Dieu qui répond, un Dieu qui entend. Et c'est ce que vous avez vu dans votre troisième lecture. Hélas, Israël a péché, Israël n'a pas aimé, c'est là son péché. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, il y a eu cette division dont je vous ai parlé, jusqu'au jour où Dieu suscite un prophète qui s'appelle Élie, et qui va parler au roi d'Israël, au roi du royaume du Nord, de ces 10 tribus qui se sont séparées du royaume de Juda, et c'est Élie parle à Akab. Akab qui a la connaissance du vrai Dieu, mais qui se moque de la loi du vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Première désobéissance. il épouse une femme sidonienne, qui était une païenne, qui était adoratrice des Baals et des Astartés, une autre divinité féminine. Alors, Akab épouse une païenne, et la païenne, qu'est-ce qu'elle amène dans le royaume d'Israël? Toutes ses divinités, tout son paganisme, elle l'amène. Et le pauvre Akab, pour faire plaisir à Jézabel, qui savait se farder, il paraît, d'une façon extraordinaire, elle s'en mettait trois couches. La Jézabel, je ne sais pas s'il y a des disciples ici de Jézabel. Elle savait séduire. Elle avait séduit son Akab. Et ce pauvre Akab, il était dans ses petits souliers devant Jézabel. Il faisait ce que Jézabel voulait. Alors un jour, alors que lui est plus responsable que Jézabel, il a la connaissance du vrai Dieu, Dieu suscite Élie, qui va se présenter à la cour d'Akab et qui lui dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, il n'y aura plus de pluie en Israël sinon à ma parole. Et puis il disparaît. Vous savez, il faut un certain courage quand on est prophète. On risque d'y perdre la tête, comme Jean-Baptiste. Quand on est prophète et qu'on doit dire la parole de Dieu, parce que le prophète, ce n'est pas un homme qui prédit simplement l'avenir, mais c'est un homme qui est la bouche de l'Éternel. Et ce qu'il dit, il ne le dit pas de son propre cœur. Il est le canal qui reçoit le message du Seigneur et qui l'apporte aux hommes. Et il ne connaît personne selon la chair. Il n'essaye pas de flatter. Et alors, vous connaissez toute cette histoire d'Élie, comment au bout de 3 ans et demi, alors que Akab l'a fait chercher partout, on ne l'a pas trouvé, il voulait le tuer, il y avait déjà des ayatollahs de ce temps-là, on fait chercher Élie, plus encore qu'on a fait chercher Bani Sabre, et voilà que tout à coup, Élie, lui, se présente. C'est le moment où Dieu, dans sa miséricorde, va redonner la pluie à Israël. Et vous avez lu toute cette histoire. D'abord, il rencontre un serviteur d'Akab, qui est un de ses officiers, mais qui avait quand même gardé la crainte de l'Éternel et qui avait essayé de sauver la vie de plusieurs prophètes de l'Éternel. Alors que Jézabel, qu'est-ce qu'elle commandait? Qu'est-ce qu'elle ordonnait? De les tuer. On tuait les prophètes de l'Éternel. Ceux qui étaient dépositaires de la loi du Seigneur, Jézabel les faisait mourir et elle mettait à leur place qui? Les prophètes des idoles, les prophètes de Baal. Elle les entretenait à la cour. Il y en avait 450, plus les prophètes d'Astarté. Et alors, Élie se présente devant Akab, qui, quand il voit cet homme, s'écrie, « Est-ce toi qui trouble Israël ?» Et que lui répond Élie, vous avez lu, « C'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi, par tes péchés, par tes abominations. » Eh bien maintenant, je te demande ceci, qu'on voit tout Israël, avec tous les prophètes de Baal, sur le mont Carmel. Et vous savez, ça me touche, parce que je connais le lieu, et je viens de faire diriger deux retraites sur ce mont Carmel. Et le torrent du Kizon, je le connais bien aussi, il est en bas du mont Carmel. Eh bien, rassemble là tout Israël, donc de ces 10 tribus, les responsables, les prophètes de Baal, et puis j'aurai un message à vous apporter. Et vous avez lu ce texte dans votre 3e lecture. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais je reviens avec vous à ce qui est dit. Quand tous sont rassemblés, verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple. Vous savez, c'est pas drôle, hein, d'être tout seul prophète de l'Éternel devant tout un peuple qui a apostasié et qui sert les Baals, et devant 450 prophètes de Baal. C'est les plus nombreux. C'est maintenant la religion dominante. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, allez après lui. Et qu'est-ce que le peuple a répondu? Rien. Quel silence. Quel silence au Dieu. On ne répond rien. Combien c'est humiliant. Le peuple ne répondit rien. c'est que leur cœur n'est pas engagé pour le Seigneur. Alors Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Eh bien, que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Il faut avoir une drôle de foi pour ça. Est-ce que vous mettez dans la peau d'Élie maintenant? Il y a 450 prophètes qui sont là, puis lui, il est tout seul. Puis il leur fait cette proposition. Il faut qu'il soit sûr de son Dieu, et que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. « Puis invoquez le nom de votre Dieu, qui n'existe pas, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu de la révélation. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas un tour de passe-passe. Parce que quand le tabernacle a été dressé, Dieu avait fait tomber le feu directement sur l'autel. Et Élie savait cela, que Dieu pouvait répondre par le feu. Il l'avait fait plusieurs fois en d'autres occasions. Alors il se confie dans ce que Dieu avait fait précédemment et il pense que Dieu lui accordera ses démonstrations pour le bien du peuple. Parce qu'il aime ce peuple. Alors, le peuple répondit, c'est bien, on est d'accord. On est d'accord. Ils n'ont rien répondu quand il a demandé de choisir. Mais maintenant, quand il leur fait cette proposition, c'est bien, on marche. Alors Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Alors ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'eut ni voix ni réponse. Comme le peuple était resté dans le silence, Baal aussi reste dans le silence. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il n'existe pas. Je vous ai dit que la vie chrétienne avait aussi un certain humour. Et vous avez vu l'humour d'Élie? J'espère que vous avez remarqué l'humour d'Élie. C'est passionnant de lire les histoires bibliques. Alors, vous voyez, ces prophètes de Baal, ils ont pris le taureau, ils l'ont préparé jusqu'à midi, ils demandent à Baal de leur répondre, il n'y a pas de réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un autel. Et ils sautaient, c'était des danses. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Vous savez, quand on est très préoccupé et qu'on pense à quelque chose, on n'entend pas. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage, c'est en voyage, ou peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec leur épée, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Que ça devait être beau. Tous sanguignolants. Alors, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de l'offrande du soir, c'était 3 heures de l'après-midi, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Parce qu'il y avait un autel là-bas, mais il avait été renversé, évidemment. Il prit 12 pierres, vous ne trouvez pas que c'est beau? Il a la foi qu'un jour Israël sera de nouveau 12 tribus. Pourtant, ils ne sont que 10. Eh bien, il a cette vision et il met 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, malgré la division. Il croit à l'unité envers et contre tout. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, le plaça sur le bois. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste, sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une troisième fois, l'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc, il n'était pas question de trucage, là. C'était clair que ça ne pouvait pas brûler. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, j'aimerais que vous voyiez ce lieu-là, et puis que vous pensiez à cette prière qu'il a faite, devant tout ce peuple qui était acquis à Baal, à l'idolâtrie. Éternel, Dieu de qui? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, puisque Jacob a le nom d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc vous voyez, au fond, tout ce qu'Élie faisait, c'était un effort pour ramener le peuple au Seigneur, ce peuple égaré par Jézabel et Akab. Et il est dit, et le feu de l'Éternel tomba, elle consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et l'absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû voir? Ils ont dû voir un miracle pour croire. Et moi, je voudrais que vous reveniez à l'Éternel sans avoir vu un tel miracle. Et alors, il paraît que certains ont été scandalisés par le verset 40, quand Élie dit « Saisissez les prophètes de Baal, puis on les laisse au torrent du Kérit, et il égorge ses prophètes, âmes sensibles. » Oh, je ne vous dis pas que je me réjouis de la chose, mais quand on est prophète, quand on se prétend parler au nom de Dieu, et qu'on égare tout un peuple, les conducteurs du peuple, les conducteurs politiques, les conducteurs spirituels, ils ont une responsabilité écrasante devant Dieu. Et quand un homme tel que Moïse n'a pas honoré dans un moment de défaillance son Dieu, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, hein. Mais quand Dieu vous a confié des responsabilités, et que vous parlez soi-disant au nom de Dieu, et que vous n'honorez pas le Seigneur, eh bien, attendez-vous à ce que le châtiment aussi tombe sur vous. Car Dieu est Dieu, et vous ne pouvez pas accuser Dieu d'être un Dieu sauvage à cause de ce que son serviteur Élie a pu faire. Je ne vous dis pas que Dieu a apprécié absolument ce qu'Élie a fait, mais il a été le justicier dans la main de Dieu. Mais plus tard, le Seigneur a parlé à Élie, si vous lisez le chapitre suivant, et vous voyez que Dieu lui montre dans une vision qu'il n'est pas dans le feu, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans le tremblement de terre. Ce qu'il aime, c'est pouvoir parler doucement aux âmes. Élie est sur le mont Horeb et il voit un cyclone, il voit une tempête, il voit le feu qui tombe du ciel, et puis il est dit, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans la tempête, Dieu n'était pas dans le vent. Puis tout à coup, il entend une voix douce et subtile. La voix de Dieu, c'est cette voix qui voudrait vous dire, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, tout ce que je vous demande, c'est de m'aimer. Mais ne m'obligez pas à être sévère, ne m'obligez pas à vous punir. Mes amis, nous allons terminer pour cet après-midi. Vous avez vu donc dans le premier exemple deux voies. Ça vous a fait penser à quoi, l'Ancien Testament? Qu'est-ce que disait Jésus? Entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Bien, j'espère que vous avez compris que l'Ancien Testament comme le Nouveau, c'est toujours le même enseignement. Sur quelle route êtes-vous? Êtes-vous sur la voie du Seigneur ou êtes-vous sur le chemin large, qui vous paraît large et spacieux, mais qui finit par la malédiction? Vous avez vu ensuite, dans le deuxième exemple, choisissez qui vous voulez servir, dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous avez pensé à quelle parole de Jésus? Nul ne peut servir d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et Mammon. Paul nous dit, vous ne pouvez pas servir Christ et Bélial. C'est ou l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas être dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Alors, choisissez. Il y a deux voies, mais il y a aussi deux maîtres. Quel maître voulez-vous? Jésus disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai le repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous aurez le repos de vos âmes. Et puis maintenant, avec Élie, vous avez vu deux positions. Deux positions. Pour qui prendrez-vous position ce soir? C'est aujourd'hui. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est pas ce qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. C'est aujourd'hui. Qu'êtes-vous pour le Seigneur? Est-ce que vous gardez le silence? Ou est-ce que vous attendez un miracle qui vous confondra pour dire « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce serait la preuve que vous n'avez pas la foi, alors. Qu'il vous faut la vue pour croire. Bienheureux, disait Jésus, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous l'ont prié.